est arrivé à la Semaine Sainte. Et il y a ce mélange entre la joie et la peine dans cette liturgie du dimanche des Rameaux. L'acclamation de la royauté de Jésus, joyeuse, faite par la bouche des disciples. Et puis, la même proclamation de la royauté spirituelle du Christ, mais cette fois-ci faite dans la violence, dans la haine de la part de ses adversaires. Joie et douleur, le paradoxe de la passion. Joie parce que par sa passion, le Seigneur nous rachète, nous sauve, il nous délivre et il nous ouvre la porte de son royaume, le royaume de son Père. Tristesse parce que pour obtenir un tel résultat, eh bien, il a dû laisser son cœur être broyé, transpercé par les ténèbres. La croix, c'est le symbole, voyez, du péché du monde, de ce péché que personne ne pouvait porter et ne peut toujours pas porter sans Jésus. Jésus porte cette croix et porte notre péché avec cette croix. Et pas seulement le nôtre, mais celui de l'humanité tout entière, tout au long de son histoire. C'est quelque chose d'immense qui s'est réalisé dans le temps, à Jérusalem, il y a 2000 ans. C'est une chose qui dépasse totalement la petite ville de Jérusalem et l'histoire du premier siècle de notre ère. C'est une histoire qui ne finira qu'avec l'histoire du monde. Oui, la croix, c'est vraiment le symbole du péché. Par la croix, nous voyons comment l'innocent est traité par le monde et ses valeurs. Concrètement, c'est ce que Jésus nous montre. Et il nous montre quel amour darde dans le cœur de cet innocent, de cet agneau sans tache, qui se laisse ainsi crucifier. La crucifixion, c'était une malédiction, autant pour les Romains que pour les Juifs. Malédiction sociale pour les Romains, un châtiment réservé aux esclaves. Les citoyens romains n'étaient pas crucifiés. On les décapitait, on les empoisonnait éventuellement aussi, mais on ne les crucifiait pas. Cette exposition publique était réservée à ce qu'il y a de pire dans la société, l'esclave, ce qui n'a pas d'âme. Et pour les Juifs, dans la Bible, eh bien, être pendu à la croix, être plus exactement, techniquement, être pendu au bois, à un poteau, c'est réservé à ce qu'il y a de pire, les blasphémateurs. C'est le motif pour lequel Jésus a été condamné à mort, le blasphème. Le blasphémateur était d'abord lapidé. Et ensuite, une fois qu'il était mort, on pendait son cadavre en signe de malédiction divine. On comprend le suicide de Judas est placé sous ce signe-là de la malédiction. Lui-même accomplit ce rituel. Mais Jésus, lui, eh bien, il est l'agneau sans tache. Il endosse la malédiction du monde, parce que le monde se séparant de Dieu, le monde qui épouse l'orgueil du dragon, du démon, en disant, moi je veux décider de mon sort, je refuse la souveraineté divine, je suis une créature libre, je refuse. Eh bien, en disant ces mots-là, on commet le pire péché qui soit. Jésus ne nous accable pas pour notre faiblesse, pour tous nos manques de force, pour nos paresses, pour notre manque de ferveur, pour notre manque d'amour envers lui, envers nos frères. Il ne nous accable pas, il nous rappelle et jour après jour, il nous demande de nous relever comme les parents demandent à leurs enfants de se lever le matin. On fait pareil religieusement. Mais en revanche, refuser sa souveraineté de créateur, de père, de sauveur, ça, c'est une chose qui ne peut pas être achetée ni en ce monde ni dans l'autre. C'est un châtiment terrible. Pour nos contemporains, ça semble rien du tout. Deux mots à dire, moi, je, point. Moi, je, et ça décide de tout. Ça décide de l'éternité. Jésus est venu nous sauver de ça. Il est venu restaurer l'image du Père dans nos cœurs, parce qu'elle était bien déformée, cette image du Père. exactement comme le visage de Jésus durant sa passion. Oui, Jésus a restauré le visage du Père dans nos cœurs. Nous concevons Dieu, notre Créateur, comme un Père aimant désormais. Nous le savons. Et la patience du Christ au long de sa passion, eh bien, nous montre cet amour inusable, inaltérable du Père. Rien ne peut le décourager. Il veut, il nous attend. Il veille sur nous. Et il attend de nous que, au moment de ce passage à lui et au cours de cette vie terrestre, eh bien, nous sachions nous détourner des valeurs et des païens et de la jalousie de ce clergé qui condamna Jésus. L'Écriteau célèbre la royauté du Christ. Pilate célèbre la royauté du Christ. De même que les disciples l'avaient célébré lors de l'entrée triomphale à Jérusalem, tout le monde célèbre la royauté du Christ, mais pas de la même façon. Et ça, c'est une image aussi du jugement. Personne ne pourra contester Dieu et son autorité et son pouvoir. Mais chacun prendra une position qui correspondra à ses choix de vie. Jésus nous permet de prendre position pour le Père, de prendre position pour lui. Et Jésus, vous le remarquerez, sur la croix, est le seul personnage qui soit nommé. Les autres brigands sont dans l'anonymat. Dans les ténèbres, il n'y a plus que l'anonymat. L'anonymat du non-sens. Alors, quand on veut la parole de Jésus qu'il a dit, que saint Jean nous rapporte au moment justement de l'entrée triomphale à Jérusalem, qui perd sa vie la gardera en ce monde, signifie vraiment que quand on veut vraiment sauver sa vie, donc son nom, sa personnalité, eh bien il faut aller du côté du royaume de Dieu, du côté du royaume de la lumière, parce que du côté du royaume des ténèbres, c'est le non-sens, c'est l'anonymat, on perd sa vie au lieu de la gagner. C'est là le grand piège des ténèbres, le piège de l'orgueil du démon. Jésus donne sa vie. Ça aussi, c'est important. Il le précise toujours dans l'évangile de Jean. « Ma vie, je la donne, personne ne me la prend. C'est moi qui la donne et je la reprends. J'ai le pouvoir de la reprendre. » Il annonce et sa mort et sa résurrection ainsi. Jésus, certes, avait des ennemis. Ses ennemis ont voulu sa mort. Ça ne fait aucun doute. Mais personne n'a pu le tuer. Comprenez, là, Pilate est tout étonné de voir que Jésus est déjà mort. La mort de Jésus, si rapide, nous montre que Jésus a pris sa vie. Il a donné sa vie. Il s'est suicidé en quelque sorte, mais Dieu a le droit de se suicider. Pourquoi ? Parce que lui, il le fait pour de bonnes raisons, pas par désespoir, pas par refus de la mission divine, au contraire. Il n'a pas voulu que les hommes le tuent. Le déicide, c'est quelque chose qui est ineffaçable, que rien ne pourrait effacer. Pas même le sang de l'agneau, c'est le sang d'Abel qui crie vers Dieu au commencement du monde. Et rien, rien ne peut racheter Caïn qui a tué. Jésus n'a pas voulu fonder la rédemption dans cette effusion de sang de la part des hommes. Alors il a pris sa vie. Il a délibérément achevé le cours de son existence terrestre. Mais ça n'enlève pas, évidemment, cette volonté de le supprimer. Et de la part des Juifs et de la part des païens, des Romains, parce qu'ils ont participé. Voyez, au moment de la Passion, les païens ne peuvent plus se tenir en dehors. Les païens arrivent à l'entrée triomphale. Eh bien, saint Jean nous dit que les Juifs grecs, eh bien, demandent à voir Jésus pour lui demander de le faire venir chez eux. Et c'est à ce moment-là que Jésus, eh bien, dit que son heure est arrivée. C'est l'heure où tous les hommes, quelle que soit leur religion, à l'époque, et même aujourd'hui encore, eh bien, ont cette possibilité de recevoir la grâce de l'illumination. Jésus ne répugne devant aucune histoire, aucune défaite personnelle. Il propose sa grâce à tous. Alors après, il faut l'accueillir, cette grâce. Et la passion, c'est vraiment l'université, l'universalité du salut. Jésus donne sa vie et il la donne pour tous. Et c'est pourquoi il est proclamé roi. Une royauté spirituelle, une royauté qui n'a pas de fin. Alors acceptons la souveraineté du Christ, qui reflète, qui exprime la souveraineté du Père. Rendons-lui grâce pour cette mort, il nous montre l'horreur du péché. Il nous montre aussi qu'un fils de la lumière échappe toujours à ses adversaires.